Ensemble, prenons soin des autres. Demain, c'est vendredi.
Oui!
À partir de 14h, soyez-y, mesdames, messieurs.
Salut!
Quand on parle pas à Boulevard 102.1, on vous présente des shows de musique avec la personnalité toute la fin de semaine. Le vendredi 18h, on décroche pour de vrai en ouvrant les portes du garage à Dan.
On va vous jouer un bon vieux rock. Bien à vous.
Matin de fin de semaine, laisse-toi bercer par le rock and chill, les versions acoustiques et live de tes chansons préférées. À 10h, embarque sur le boulevard du rock. On va te donner toute qu'une ride avec le meilleur des années 90 à aujourd'hui. Dès 15h, on sac ça à boil avec les Colosses du rock. La fin de semaine, on te fait vivre le rock à Boulevard 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
Ce soir, c'est un plaisir de le recevoir. C'est Alain Reyes, qui est un ex-politicien, qui est maintenant rendu un commentateur politique. Monsieur Reyes, c'est un plaisir de vous accueillir dans le podcast de Marceau le soir.
Yeah, salut, merci Yannick de me recevoir. Puis là, on met les choses au clair tout de suite. Là, tu m'appelles Alain, je t'appelle Yannick.
C'est un bon deal, c'est un bon deal. Yeah. Vous avez fait, t'as fait de la politique pendant combien de temps, Alain?
Pendant 16 ans. Puis tu sais, quand je fais le petit clin d'œil sur nos prénoms, hein, je me faisais souvent appeler Monsieur le député, j'étais appelé Monsieur le maire, Monsieur le professeur. Ça me permet de te faire un petit historique de mon CV. Monsieur le coach, l'entraîneur, parce que j'étais entraîneur pendant 26 ans au soccer. Et souvent, je dis aux gens, additionner toutes ces années-là avec tous ces titres-là honorifiques, entre guillemets, là, que j'ai été plus souvent Alain que ces années-là en politique et dans toutes les autres fonctions. Fait que, je pense que de garder le prénom, là, c'est plus proche. Mais 16 ans de politique, pour répondre à ta question, 6 ans comme maire, 10 ans en politique fédérale, au départ comme député conservateur, puis à la toute fin comme député indépendant.
Qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire de la politique?
Hey, là, je te parle de 16 ans, là, maire et au fédéral, mais le goût est venu d'une personne qu'on voit beaucoup dans les médias, qui s'appelle Mario Dumont.
Ah oui?
Parce que moi, ma première expérience politique, c'était en 2003. Je me suis présenté pour l'Action démocratique du Québec, la défunte Action démocratique du Québec, pour Mario Dumont. Puis c'est un drôle de circonstance que ça s'est fait. J'étais avec mon ex-conjointe. On venait d'avoir notre troisième enfant. Puis moi, je suivais l'actualité. Je dévorais ça de mon père qui m'inculquait ça, qui suit l'actualité internationale, nationale, provinciale, à tous les jours. Là, il est branché sur tous les postes de TV, décortique tout ce qui se dit à la radio, dans les médias. Puis moi, j'étais très préoccupé par l'état des finances publiques. Là, ce que je veux dire là, c'est en 2003, puis je pense qu'on pourrait redire la même chose encore aujourd'hui. L'état des finances publiques, notre système de santé, à ce moment-là, Mario Dumont parlait du système du privé, de la contribution du privé, parce qu'on n'y arriverait pas, le choc démographique. Tu sais, je commençais à travailler, je recevais mon talon de paie, puis je checkais ma ligne en bas, puis je me disais, qu'est-ce qui se passe entre le salaire qu'on m'a dit que j'aurais puis ce qui me reste dans mes poches? Puis là, j'avais dit à mon ex, on partit, il y avait un congrès à Rivière-du-Loup de l'Action démocratique qui commençait à monter à ce moment-là. Puis il y avait eu un autre député qui avait été élu, il s'appelait François Corriveau à Bécomo. Fait que c'était le deuxième. Puis on était parti là, puis il y avait quoi, 1000 personnes. Puis je me suis fait embarquer, j'ai eu le kick. Puis le soir même, pendant le party de soirée du samedi soir, dans les conseils généraux, il y a toujours le gros party le samedi où là, les politiciens et les tripes de politique enlèvent la cravate puis ils se déhanchent sur sa piste de danse après un bon souper puis une coupe de vin. Puis j'avais appelé un de mes amis, je me rappelle comme c'était hier, là, il s'appelle Alexandre, il est encore mon ami, il a encore une chance. Puis j'ai dit « Alexandre, je me présente en politique. » J'avais jamais dit ça à personne avant. Il dit « Arrête, là, t'es dans ton congrès, là, t'as pété une bulle. » Je dis « Non, je te le dis, là, il faut faire quelque chose, on est jeunes, c'est à nous autres à prendre notre place. » Fait qu'il dit « On en reparle quand tu reviendras, puis la balloune va dégonfler. » Puis le dimanche, je suis revenu, puis j'étais énergisé, enthousiaste, comme tous et celles qui sortent de ces conseils généraux-là. Là. C'est comme tu es dans une bulle. Là. On pourrait en parler si tu veux, là, comment ça se passe. Là. Puis là, quand tu ressors, tu reviens à la réalité, tu te rends compte que le monde continue d'avancer puis les gens ne sont pas dans le même monde que toi. Mais moi, j'étais resté énervé, puis là, j'ai commencé à parler au monde autour de moi pour leur dire que j'ai le goût de me lancer. Puis ce qui m'avait frappé, c'est que tout le monde me disait « Non, non, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas pas aller en politique, là. C'est des voleurs, ils pensent juste à eux, ta vie va être sur la place publique, ta famille, tes enfants, tes amis, tu veux vraiment ça pour toi, là, tu sais, avec ta carrière, que, la carrière que j'avais. » Ça m'avait fasciné de voir que tous les gens proches de moi qui me connaissaient, qui savaient qui j'étais, ce que je pouvais faire, me décourageaient d'aller en politique. Moi, c'est devenu mon carburant à ce moment-là.
Okay.
Puis je vais leur démontrer que je vais faire une différence, en tout cas, je vais tenter, puis je vais rester le même gars, là.
Puis est-ce que tu avais des cheveux blancs à l'époque ou bien la politique amène des cheveux blancs, Alain?
La politique, on finit tous par des cheveux blancs. La politique, je te dirais, elle accélère la coloration. Ouais.
Comme les coachs du Canadien. Ils arrivent, ouais. Sont bruns, puis après un an, tu te dis, ben ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Le stress a fait son œuvre. Est-ce que en politique, ben j'imagine qu'il doit y avoir toutes sortes de députés, là, qu'ils soient provinciaux ou fédéraux. Il y en a qui sont plus travaillants que d'autres. Est-ce que tu t'attendais à cette charge de travail-là, que ce soit au municipal, au provincial ou au fédéral?
Non, sincèrement, puis... Tu sais, on est très critique face aux politiciens globalement. Là. On écoute les gens, on ouvre les lignes, là, on demande au monde qu'est-ce qui passe des politiciens. Là, puis ça va être du bashing là, sur presque toute la ligne en général, ce qu'on lit, puis on le voit avec les réseaux sociaux. Mais il ne faut pas oublier là, que, sincèrement, là, c'est un peu comme partout, tu as des pommes pourries dans l'eau, puis tu as des gens moins travaillants, mais en général, les gens qui vont en politique, ils vont pour les bonnes raisons. Ils veulent faire une différence. Dans certains cas, ils se font bouffer par la machine. Ils finissent par s'oublier, ils finissent oublier les raisons qui les ont poussés à aller vers ça. Mais tu sais, la réalité, c'est qu'ils mettent beaucoup d'heures. Puis particulièrement quand tu es en région. Quand tu es en région, là, tu as un territoire qui est grand. Là. Moi, je partais le matin, là, puis je m'en allais faire une inauguration dans un parc à la bout de ma circonscription. Ça me prenait 1h30 le samedi matin, là, quand les autres partaient à l'aréna ou sur le terrain de soccer, où ils chillaient tranquille en prenant un café, puis en regardant l'actualité ou les uns livres, ben moi, je partais, là, puis j'allais faire une inauguration dans un petit parc à 1h15, 1h30 d'auto. Puis là, tu vas passer 20-30 minutes, là, tu vas serrer des mains, tu vas saluer les gens, tout le monde est content de te voir. Puis là, tu t'en reviens chez vous. Ta journée est pas mal avancée. Là,
4 heures.
Le dîner il est passé. Là. Puis là, le problème, c'est que c'est pas juste ça. Tu as un souper spaghetti au Chevalier de Colomb le samedi soir. Puis dimanche matin, c'est le brunch des filles d'Isabelle. Ça, bien, c'est comme ça, week-end après week-end. Puis ça s'additionne à tes soirées de semaine où tu as les journées de tournoi de golf, de fondation, de cocktail bénéfice, d'inauguration d'une entreprise dans ton secteur. Puis là, bien, tu finis par t'éloigner de ta famille, tes amis, puis là, tu finis par t'oublier. Fait que c'est beaucoup d'heures, beaucoup de sacrifices personnels qu'on fait personnellement, mais que les gens autour de nous subissent.
Ouais. Moi, j'ai,
ça, tu t'en rends compte, là, avec le temps.
Alain Reyes, j'ai un collaborateur avec qui je travaille depuis des années, que tu dois certainement connaître. Je ne sais pas si tu le connais personnellement, mais il a tenté de s'impliquer en politique. Il a été élu comme député, par la suite ministre de la Justice, puis il avait un objectif. Malheureusement, il n'a pas réussi à faire passer son objectif. C'est Maître Marc Bellemare qui voulait abolir le no-fault. Et Maître Bellemare, quand il a su qu'à un certain moment, c'était impossible pour lui, à l'intérieur de son parti, d'abolir le no-fault, parce que Jean Charest lui avait dit « on se concentrera pas là-dessus », a tout simplement dit « OK, bye-bye, moi je m'en vais, j'étais en politique uniquement pour ça ». Est-ce que c'est possible de faire réellement des changements quand on se lance en politique, que ce soit municipal, provincial ou fédéral? J'imagine que le municipal, c'est plus facile parce que c'est de la politique directe avec les individus. Provincial, on s'éloigne peut-être un peu, puis que dire du fédéral? Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre la politique municipale, provinciale et fédérale pour ce qui est de la proximité, puis le pouvoir de réellement changer les choses?
Bon, première des choses, là, tu ne seras pas surpris que je vais te dire que oui, on peut faire une différence à tous les paliers. Puis je vais te donner des exemples concrets pour les gens qui nous écoutent, voient la différence qu'un individu, un homme ou une femme peut faire. Mais juste avant, je vais revenir sur Marc Bellemare, Maître Bellemare. Tu sais, moi, j'ai suivi sa carrière et je me suis beaucoup posé de questions. Comment ça se fait que quelqu'un comme lui, avec sa notoriété, son expérience, ses compétences, ait quitté si vite? Puis ma conclusion, tu l'as nommé dans ton intro de ce sujet-là, il est allé là pour un sujet. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que les gens qui vont en politique pour une raison, pour un sujet qui les anime, sont souvent très déçus, puis quittent rapidement, puis je te dirais désabusés. Parce que la machine est grosse, puis la réalité, c'est qu'un chef de parti, un gouvernement, il doit tirer sur tous les fronts en même temps. Il ne peut pas faire juste une chose, puis des fois, pour des raisons stratégiques, il va décider de mettre sur pause un enjeu. Puis ça ne veut pas dire qu'il ne le ramènera pas avec le temps, que ça n'évoluera pas, mais va peut-être l'éloigner. Puis là, ben, la personne qui est allée juste pour ça, ben, elle n'a plus de raison d'être à l'intérieur. Fait que c'est là que, puis moi je l'ai dit souvent, en politique, c'est peut-être l'endroit au niveau intellectuel, c'est le plus stimulant quand tu décides de t'ouvrir, parce que là, tu vas dans des comités, tu apprends des choses, parce que tu viens d'un secteur d'activité, mais il y a tellement de choses dans la société qui devraient t'améliorer. Puis quand tu te mets à t'y intéresser, tu découvres des gens, des experts, tu poses des questions, tu en apprends toujours plus. Puis là, tu as le goût de poser des changements, puis en réalité, tu ne peux pas tout les faire. Il faut que tu choisisses. Puis là, je vais arriver à ta question. Municipal, je pense que poser une faire trop d'images, les gens comprennent. Tu veux construire un aréna, tu prends ça en charge, l'aréna se construit, le monde va pouvoir aller patiner, patinoire réfrigérée extérieure. Moi, chez nous, on a monté une salle de spectacle, un centre de diffusion, le carré 150. C'est concret. Tu répares une rue, ça change. Les gens qui passent à Montréal, là, moi, je vis à Montréal la semaine, là, les nids de poules, là, c'est hâte qu'un maire ou une mairesse qui trouve une solution à ça puis qu'on règle le problème. Puis là, ça devient concret. Provincial, fédéral, le problème, c'est qu'on voit souvent juste du négatif. On voit les gros enjeux. Mais moi, je vais te donner l'exemple. J'ai fait adopter comme député de l'opposition quand j'étais conservateur une motion en chambre qui a été votée à l'unanimité, incluant tous les mes adversaires, dont Justin Trudeau, le ministre, je me rappelle Bill Morneau, sur qui je tapais sa gueule quand j'étais lieutenant politique, à chaque période de questions, puis durement, là, qui se sont levés pour une motion pour équiper tous les véhicules d'urgence de défibrillateurs cardiaques. Il y a un texte là-dessus aujourd'hui dans la presse qui parle justement d'une résidence qui n'a pas de défibrillateur cardiaque, quelqu'un est décédé. Moi, là, dans ma tête, c'était inconcevable qu'on n'ait pas de défibrillateur cardiaque dans les véhicules de police, de pompiers, puis qu'il y en ait juste dans les ambulances. Puis moi, j'ai vécu l'histoire d'un ami là, qui a fait un arrêt cardiaque dans un aréna d'un collège privé, puis qui a été sauvé par un défibrillateur il y a plusieurs années quand j'étais maire. Puis moi, j'ai vu ça en regardant à NCN, j'ai vu sa face, c'est mon chum, qui a fait un arrêt, puis à cause que la Chambre de commerce avait payé un défibrillateur comme commandite au collège privé, on l'a sauvé, puis aujourd'hui, je suis capable de jouer aux cartes avec lui encore quand on se voit. Donc moi, j'avais pris ce ballon-là que j'avais mis en place quand j'étais maire pour équiper le maximum de bâtiments de ma ville en sollicitant les gens d'affaires, les établissements scolaires, de santé. La Sûreté du Québec, dans mon secteur, est le premier poste qui a équipé tous ces véhicules de police de défibrillateurs cardiaques. Et là, je suis arrivé à Ottawa, j'ai dit, pourquoi pas, dans tout le pays? Bien, aujourd'hui, là, Yannick, il y a des défibrillateurs cardiaques dans tous les véhicules d'urgence au pays qui font en sorte qu'il y a des vies qui sont sauvées. Juste ça, quand on se parle, là, j'aurais juste fait ça dans ma carrière politique. Je pense que ça aurait valu mon salaire, en toute honnêteté, même si on les critique bien gros, les salaires des politiciens. Tu sais, il y a des vies qui sont sauvées à tous les jours. Puis ça, ça a été voté un mardi soir à 8 heures. Il n'y avait pas un journaliste dans la tribune. Puis je me rappellerai comme c'était hier. Je retournais à pied le long de la rivière Outaouais, Ottawa, dépendant de quel bord que t'es. Je m'en retournais à mon condo. J'avais les yeux qui coulaient parce que mes enfants étaient dans un gala méritasse à leur école pendant ce temps-là, puis ils recevaient un prix au secondaire, puis leur père était au Parlement, votait, déposait une motion, votait à l'unanimité pour instaurer des défibrillateurs cardiaques pendant que mes enfants recevaient un prix où j'aurais dû être là comme père. Puis il n'y a personne qui a parlé de ça, puis là, je te l'apprends, puis certains des auditeurs ont jamais entendu parler de cette motion-là qu'Alain Raïel de Richemont-Tabasco dans son petit coin de pays à Victoriaville a emmené jusqu'à Ottawa comme projet. Puis ça, les affaires de même, tous les députés peuvent en compter une histoire comme ça. Fait que c'est pas vrai qu'on fait pas une différence. Puis là, je parle beaucoup, là, mais tout ce que les gens touchent, là, il y a une association, il y a un organisme qui légifère ça. Puis ça, c'est des lois qui ont été votées par des hommes et des femmes qui sont peut-être imparfaites, qui s'améliorent avec le temps, mais qui fait qu'on vit dans notre société actuellement. Puis c'est ça. Puis c'est comme ça. Puis nous autres, il n'y a pas de coup de couteau. Il n'y a pas de bagarre au Parlement. Bon, il y a des insultes. Il y a de la partisanerie, on va dire. Ça pourrait être tout amélioré. Puis je suis d'accord avec ça. Je milite pour ça. Mais ça reste que par des commissions, des comités, des travaux, des politiciens avec leur staff mettent en place des projets de loi qui veulent faire avancer, puis ça finit par aboutir à un moment donné par quelque chose qui va améliorer la qualité de vie des gens.
Alors, Reyes, comment tu expliques, bon, tu sais, ce que tu nous parles, là, moi, je trouve ça formidable que tu aies réussi à faire ce grand changement-là. La grandeur du Canada, ça va aider, ça va aider énormément de gens, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'à un moment donné... Je ne sais pas si ça a toujours été comme ça. Je n'étais pas super conscient des années 70, encore moins des années 70, mais un peu plus conscient des années 80, 90. Puis j'ai l'impression que c'est les années 2000 qui ont fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de mépris à l'égard des politiciens. Les politiciens, avec l'avènement des réseaux sociaux, ne l'ont pas facile. Là. Moi, je regarde des fois la pression au niveau des mots là, qui sont employés sur certains individus, hommes comme femmes. Puis des fois, c'est encore plus cruel envers les femmes. Comment c'est arrivé ce mépris-là? C'est-tu un mépris qui peut être mérité dans certains cas, mais pourquoi je vois toutes sortes de haine à l'égard des politiciens, que ce soit au municipal, au provincial, au fédéral? À Québec, à Montréal, on a une nouvelle mairesse qui semble faire sa place tranquillement mais sûrement. Jusqu'à maintenant, on peut considérer qu'elle fait une belle job, mais on ne la connaît pas encore. Québec, on a un Bruno Marchand qui est là pour son deuxième mandat, qui est une personne qui est entêtée, mais qui semble vouloir y aller de l'avant pour changer les choses. Mais écoute, si tu regardes les réseaux sociaux de Bruno Marchand, ça doit être une job à temps plein d'essayer de modérer les commentaires. Comment on en est arrivé là? Ça ne peut pas être tout mérité, ça, Alain, là?
Non, tout à fait. C'est pas tout mérité. Puis à un moment donné, tu sais, les politiciens, ils sont une carapace, puis ils veulent avancer, puis... La réalité, c'est qu'on est dans la polarisation. Les réseaux sociaux, tu l'as nommé, les algorithmes que ces GAFA ont créés donnent l'impression à un petit groupe qui sont une majorité. Puis moi, je le dis, là, si on tombe dans l'analyse politique de ce qui s'en vient au Québec, moi, souvent, ce n'est pas, les politiques que les gens m'ont proposées qui vont faire une différence, c'est le ton que certains vont utiliser. Moi, je pense, là... qu'en ce moment, une majorité de citoyens et citoyennes, puis c'est les commentaires que je reçois, moi, avec les types d'interventions que je fais dans les médias quand j'écris, il y a une soif de la part de la population d'avoir un discours plus posé, plus pragmatique, qui ne cherche pas à créer de la friction. Je regarde Paul Saint-Pierre Plamondon, sa sortie qu'il a fait sur le Parti libéral du Québec de l'associer au crime organisé en mettant un point d'interrogation pour faire du capital politique à court terme. Puis Charles Millard qui dit qu'il va le poursuivre après parce que lui, il veut mettre fin à ça. Puis il dit là, à un moment donné, il faut se défendre. Là. Puis c'est le gars, le jargon, le coup pour coup. Là. Puis c'est pas vrai que je vais me laisser plisser les pieds. Puis la meilleure défense, c'est l'attaque. Fait qu'on se met à se crier ce modèle-là. Mais tu te rends compte que la population, là, quand ils ont vu ça, ils ont dit encore deux gamins. C'est qui l'adulte dans la pièce? Puis Charles Millard, c'était pas ça qui nous emmenait comme image. Puis Paul Saint-Plamondon, je rappelle à tout le monde, quand il a commencé, ce qu'on disait, c'est qu'il rafraîchit ça. Il fait des choses différemment. Puis là, il est retombé là-dedans. Fait que, tu sais, les politiciens ont une grande responsabilité, mais je pense que nous, médiatiquement aussi, dans la façon de l'analyser, où on cherche nous aussi des clics, parce qu'on est rendu dans le modèle, on rentre dans les réseaux sociaux, tu sais, on ne sait plus le journaliste quand il écrit un texte où il devrait être théoriquement neutre. Il est-tu vraiment journaliste quand il repartage sur X le commentaire de quelqu'un? Il partage-tu l'opinion de la personne? Là, on les voit sur un panel après, comme moi, là. Ouais. Moi, les gens m'écrivent, hey, le journaliste devrait être neutre. Non, moi, je ne suis pas journaliste. Moi, je suis un analyste chroniqueur, j'ai le droit de donner mon opinion. Mais le journaliste, quand j'ai moi à côté de moi dans un panel, un journaliste qui fait du commentariat, lui, c'est touché, là, parce qu'il doit commenter en étant très neutre. Et moi, je peux me permettre de donner mon opinion. Fait, ouais. Là, je pense qu'il y a un mélange des genres qui fait que tout le monde est mêlé. Ça fait en sorte que là, on a de la critique rapide sur les politiciens. Là.
Ça existe-tu, la neutralité journalistique, selon toi? Puis j'aimerais avoir ta vision de quand t'étais politicien, puis là, maintenant, t'es rendu chroniqueur. La neutralité journalistique, moi, j'y ai jamais cru. T'sais, la presse était bel et bien libérale. Là, la presse, quand même que tu dis « Non, non, ça a toujours été souverainiste. » La presse n'a jamais été souverainiste. Là. La presse, c'est libéral. C'est la grande famille de la presse, des gens qui résidaient dans le secteur de Charlevoix. C'était Power Corporation. Il était très, très, très libéral. Donc, à mes yeux, à moi, j'ai découvert très rapidement que la presse n'était pas neutre. On militait pour un parti, on militait pour une idée. Il y a certains journaux où, des fois, on voit mettons, Radio-Canada... Certains chroniqueurs, des fois, sont plus à gauche. On en voit très, très rarement à droite, mais Radio-Canada est un peu plus à gauche, on va se le dire. Mais je ne serais pas capable de dire pour quel parti eux seraient tentés de militer. Peut-être certains diront ben ils militaient beaucoup pour Justin Trudeau, et là, c'est encore pour Mark Carney. Québécois essaye le plus possible de balancer, quoique il y a encore un peu plus de monde à gauche qu'à droite chez Québécois. Pour toi, en tant que politicien, puis en tant maintenant que chroniqueur, qu'est-ce que tu penses de la neutralité?
Bon, je pense pas qu'on peut être neutre totalement. Le défi, c'est justement d'écrire en étant neutre, en ayant une opinion. T'sais, tout le monde a des opinions, fait que c'est le défi. Moi, je vais faire une distinction par rapport, puis là, tu sais, je me suis jamais vraiment fait cette réflexion-là par rapport à ce que tu dis. Tu sais, quand tu dis la presse, c'est libéral, moi, je les vois pas libéraux, je les vois fédéralistes.
Ah, oui, je comprends.
Qui est le parti qui les représente, c'est les libéraux, fait que tu vois, mais à l'intérieur, tu as des journalistes, des chroniqueurs qui sont souverainistes. T'sais, moi, je vois Christina, qui est partie du Bloc québécois, qui s'est pas présentée, qui écrit comme moi dans la section dialogue. Tu as des gens fédéralistes, tu as des gens plus de gauche, des gens plus de droite qui écrivent à l'intérieur de ce média-là. Mais oui, c'est assumé, là. La presse, c'est un journal fédéraliste. Là, aujourd'hui, ils font plus d'éditoriaux lors des élections, mais dans le temps, ils faisaient, comme dans les grands médias, un statement à l'approche d'une élection ou d'un référendum pour dire « voici les raisons qui font qu'on se positionne comme ça ». On va dire, est-ce que quelqu'un peut penser que Québécois n'est pas souverainiste quand Pierre-Carl Péladeau est là? Mais est-ce que ça veut dire que tous les journalistes qui sont là sont souverainistes? La réponse est non. Il y a des journalistes, des chroniqueurs qui sont là, qui sont des fédéralistes à l'intérieur, fait que tu as une variété d'opinions. Tu sais, moi, ce qui me fait sourire des fois, c'est que moi, j'écris un texte. Puis, tu sais, je suis clairement un fédéraliste, là. Dans ma tête, il n'y a aucune ambiguïté. Moi, mon père et ma mère ont quitté l'Égypte pour venir au Canada. T'sais, nous autres, on est reconnaissants dans notre famille, du pays qui nous a accueillis, qui nous a offert une chance de pouvoir grandir, s'épanouir, puis d'avoir nos enfants, nos petits-enfants, puis tout le monde ici. Tu sais, des fois, j'écris une chronique, puis je me fais dire dans la même chronique, là, je te le dis, là, c'est pas des farces, Yannick. Ah, laissez ça, tu prends le côté de Paul Saint-Pierre Plamondon, puis il y a quelqu'un qui me dit que je défends Charles Millard. Puis que là, je suis contre la CAQ. Puis dans la même chronique que j'ai écrite dans la presse, je me fais écrire de tous bords, de tous côtés, on m'associe à un parti, parce que là, c'est des gens qui sont ultra-partisans qui parlent. Puis eux autres, là, sont contaminés, là. Ils veulent défendre corps et âme, et là, ils voient chaque petite bébite dans un texte, un paragraphe ou une phrase qui vient les tiquer, alors de regarder l'ensemble du texte où, en général, tu sais, j'essaye, moi, d'être le plus neutre, sans attaquer personne, puis dans la section dialogue où j'écris dans la presse, d'arriver avec quelque chose de constructif à la fin, une prise de position qui ne veut pas dire que c'est parfait, mais qui nourrit le débat, puis qui dit aux gens, puis moi, je dis souvent aux gens, moi, je ne sais pas de vous convaincre. Moi, je vous donne, avec mon expérience, avec mes compétences, puis avec ce que j'ai vécu, mon opinion sur un sujet, puis après ça, bien, vous prenez d'autres, puis vous faites votre propre tête.
Je comprends très bien. Est-ce que quand tu étais...
C'est ça. Fait que là, je fais une petite distinction.
Parfait. Là, c'est le chroniqueur qui parle, Alain Reyes. Mais le politicien, ouais. Alain Reyes, là, est-ce que quand tu étais à Ottawa, tu constatais qu'on était peut-être plus dur à l'égard des conservateurs en ce qui a trait à la fonte journalistique? On était plus dur avec les conservateurs qu'avec Justin Trudeau à l'époque?
Ouais. Oh, oui, tout à fait. Mais en même temps, moi, je trouvais ça bon. Moi, là, je mets au défi, là, mes anciens confrères qui sont là, que je trouve qu'ils sont pas mal absents de la sphère médiatique. Là. Il aurait tout intérêt à ce qu'on on voit plus Gérard Deltel. Gérard Deltel, c'est un communicateur exceptionnel. Là. Ouais. Ça n'a pas de bon sens qu'il ne soit pas dans les médias à tous les jours. Moi, quand j'étais lieutenant, là, j'ai jamais, je te le dis, Yannick, jamais, à moins d'avoir un empêchement, puis là, je proposais d'autres moments, puis des fois, bon, ça ne cadrait plus avec l'émission, mais j'ai jamais refusé une demande. J'allais au bat, puis moi, je disais, je veux des entrevues tough. Je veux que vous me challengez, parce que ça me donne l'opportunité de vous donner. Puis il y a des fois, là, j'avais le goût de sacrer mon camp en ondes en direct, tellement que je me faisais picosser. Mais je pense qu'avec le temps, j'ai réussi à défendre mes points de vue, puis donner l'autre revers de la médaille. Ce qui faisait en sorte que je pense que j'ai développé un certain respect des chroniqueurs, des animateurs, puis des gens qui me challengeaient en entrevue. Puis ils n'étaient pas nécessairement d'accord, mais je pense que là, ils pondéraient mon discours en disant « Ouais, là, des fois, ils comprenaient bien que je défendais la déposition de mon chef, j'étais un lieutenant politique. J'avais pas le choix, mais ils connaissaient mon fond. Ils m'avaient entendu à d'autres endroits. » Fait que j'ai envie de te dire, oui, il y en a qui étaient tough, très tough, mais si tu n'es pas là, ça ne les empêchera pas de continuer. Fait que non, vas-y, accepte, demande des entrevues pour aller défendre ton point de vue, puis aller l'expliquer. Puis la preuve, là, si on prend les conservateurs, là, on va dire Mark Carney, il a adopté des positions plus à droite que Stephen Harper.
Exact.
D'entendre que s'il y a en Alberta, et plus. Stephen Harper n'a même pas été capable d'aller. Moi, je vais te présenter le Stephen Harper, là, je peux t'en parler longtemps. Va dire, c'est pas vrai que les gens n'ont pas des positions plus à droite, des choses qui tiennent la route, mais comment ça se fait que les gens ne sont pas prêts à aller voter? Bien, c'est plutôt le messager qui est le problème. Puis c'est là que je dis qu'à un moment donné, les conservateurs vont devoir se poser la question. Est-ce que ça se pourrait qu'on soit pas juste, on n'utilise juste pas le bon ton pour rejoindre la population? Puis là, arrêtez de vouloir être la droite morale parce que vous êtes en train de devenir le NPD de la gauche. À un moment donné, quand tu veux gouverner, là, tu veux mettre en place, c'est bien beau crier sans cesse c'est quoi qu'on devrait faire, mais si tu ne gouvernes pas pour les mettre en place, ça donne quoi ultimement?
Ouais. Il y a beaucoup de chefs conservateurs qui sont passés. Bon, tu as parlé de Stephen Harper, qui est un chef conservateur très respecté. Après ça, il y a eu Erin O'Toole, c'est ça? Erin O'Toole. Après ça, il y a eu l'autre grand blond, là, que je perds son nom.
Pierre Poilievre?
Non, pas Pierre Poilievre, c'est un petit brun, ça. Ça, c'est lui, le chef actuel. Mais l'autre qui était là avant...
Ben, t'as eu Andrew Scheer.
Andrew Scheer. Donc, les quatre...
Oui, j'étais lieutenant en commençant.
Donc, les quatre chefs que t'as connus, qu'est-ce qui les déterminait, ces individus-là? Lequel des chefs a été le meilleur à tes yeux pour le Parti conservateur du Québec? Est-ce que c'est encore Stephen Harper?
C'est drôle, mais celui... Oui, Stephen Harper, sur toute la ligne. Stephen Harper fait partie des... Quand tu fais des sondages même, là, d'opinion... Quand tu demandes qui ont été les meilleurs premiers ministres du Canada, Stephen Harper est rendu aujourd'hui, est en train de monter dans la hiérarchie, parce que là, aujourd'hui, on regarde l'état des finances publiques, on regarde la façon de faire de la politique. On aimait pas peut-être son image, mais on aimait sa posture, comment il se tenait, comment il jouait pas de petites games artistiques, là, que j'appelle, moi, d'art dramatique, comme on a vu en Justin Trudeau et Pierre Poilievre, à la Chambre des communes. Fait que Jean Chrétien qui était là, tu sais, comme posture, Brian Mulroney. C'est pas vrai que les conservateurs n'ont pas réussi à gouverner au pays. Moi, quand je suis rentré, presque toutes les provinces au pays étaient gouvernées par des premiers ministres de progressistes conservateurs. Pas nécessairement conservateurs, progressistes conservateurs.
Et qu'est-ce qu'il y avait de si particulier?
De côté les questions.
Qu'est-ce qu'il y avait de si particulier, Stephen Harper?
Il avait réussi à recentrer la famille conservatrice au pays sur les enjeux économiques et de saine gestion des finances publiques. Il avait mis de côté les questions sociales que Justin Trudeau a ramenées, lui, à sa façon, puis qu'on s'est tanné avec le temps, puis que Mark Carney s'est rééloigné. On va dire, Mark Carney, c'est un catholique pratiquant.
Ouais.
Comme Stephen Harper, pareil, de droite économique, qui était supposément le green des politiciens, alors que il était gouverneur de la Banque du Canada et gouverneur de la Banque d'Angleterre. Puis ce qu'on se remarque, c'est que les gens, là, ils n'ont plus envie d'avoir des politiciens rockstar qui font la une du People ou des magazines. Ils veulent des gens qui sont capables de gérer nos finances puis s'occuper d'économie puis pas trop faire de flap-flap. Puis c'est une des raisons pourquoi Mark Carney, d'après moi, là, mon analyse personnelle, passe pas trop de temps à la période de questions. Il ne veut pas participer à ce show-là parce que lui, il a trop d'affaires à gérer.
Je comprends. Et pour ce qui est de Pierre Poilievre, est-ce qu'il y aurait tout avantage à revenir à ce qu'on était, le Parti conservateur du temps de Stephen Harper? Est-ce que c'est quelque chose qui serait possible pour Pierre Poilievre actuellement?
Moi, personnellement, je pense que son temps est fait.
Il est trop
tard.
Je pense que le mal
est fait. Il est trop tard. Puis là, c'est le défi des conservateurs de prendre acte et de poser un geste courageux en pensant changer avant qu'il soit trop tard et qu'on soit rendu trop loin. Fait que c'est ça. Fait que je pense que là, on est rendu là. Puis, c'est un excellent chef de l'opposition. C'est ça la réalité. Mais tu sais, à un moment donné, il y a des relents qui reviennent sans arrêt dans sa façon d'être, puis sa base. Puis tu sais, moi, j'ai participé à la course à la chefferie contre lui, là. Tu sais, il y a plein de monde qui sont convaincus que j'étais conservateur parce que j'étais frustré de Pierre Poilievre d'avoir perdu la campagne. Au contraire, là, moi, j'ai pas arrêté de répéter à qui veut bien l'entendre que ce qu'il a réussi, c'est monstrueux. Et monstrueux dans le terme, en termes organisationnels, ultra positif, là. Mais il a tellement amené de gens polarisés autour de lui qui ont sa vie entre ses mains qu'il n'a pas le choix de les nourrir. Éric Duhem a un peu le même problème. Moi, je parle souvent d'Éric Duhem. Oui. Éric Duhem était là avec Mario Dumont dans le temps, là, moi, quand j'étais là. Moi, je considère que c'est un gars ultra, ultra intelligent. Le problème, c'est qu'il a nourri une base. Ce n'est pas tous les conservateurs qui sont comme ça. Je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il a nourri une base ultra-partisane qui s'entête à vouloir à être convaincu que tout ce qu'il croit est la bonne chose. Sur le fond, je pense qu'ils ont raison. Sur la façon d'y arriver, par exemple, ils n'y arriveront pas parce qu'ils ne réussiront pas à agrandir l'attente des gens intéressés à voter pour eux. Puis ça, ben, je pense que c'est un constat. Puis dans la vie, on dit, il faut que tu connaisses le problème, il faut que tu le comprennes. Moi, je pense qu'ils connaissent le problème. Les stratèges, ils comprennent très bien. Le problème, c'est qu'ils n'adhèrent pas à la bonne solution pour appliquer la bonne solution. Fait qu'il faut qu'ils adhèrent. Et là, en ce moment, il y a toutes les franges conservatrices qui tirent de leur bord.
Ouais.
Est-ce qui n'arrivent pas à comprendre qu'il faut qu'ils gagnent sur l'ensemble du pays.
Est-ce qu'il y a des dauphins qui commencent à être consultés? Moi, j'aime bien Caroline Mulroney. Bon, Caroline Mulroney qui a quitté ses fonctions en Ontario il y a de ça quelques semaines. Est-ce qu'elle, elle pourrait être présentée comme peut-être une future candidate à la chefferie du Parti conservateur du Canada? On a bien pensé que le plus populaire, c'était Ben, puis elle allait se présenter un jour en politique. Finalement, ce qu'on nous dit, c'est que c'est Mark qui s'intéresserait plus à la politique que Ben, Mark Mulroney, qui est un homme d'affaires, qui est un banquier de carrière, ça pourrait être deux personnes qui pourraient tenter un jour de se lancer à la chefferie du Parti conservateur du Canada?
Ouais, je te fais une confidence qu'un jour, si j'ai ma biographie qui sort, va être écrit noir sur blanc sur papier. Moi, quand je suis arrivé en poste en 2015, une des premières personnes que j'ai été rencontrée, c'est Brad Mulroney. J'ai demandé un rendez-vous parce que je voulais parler au premier ministre que je n'avais jamais rencontré, pour qui j'avais une grande estime, puis demander conseil pour un jeune politicien comme moi qui partait de sa région du Québec, puis qui s'en allait à Ottawa. Tu sais, lui, le gars qui venait de Baie-Comeau, là, qui est devenu premier ministre.
Et qui est un monument, là, tu sais.
Un monument. C'est le plus grand premier ministre qu'on a au Canada, quant à moi. Et j'avais posé la question, votre fille, on va dire, trilingue parfaite, une belle famille, carrière, son père en politique, c'est la dynastie. Tu avais Trudeau qui venait de rentrer. Moi, je voyais le combat Caroline-Justin Trudeau. Puis j'avais dit à ce moment-là, si Caroline, votre fille, décide d'y aller, dites-lui que je veux être son organisateur pour l'ensemble du Québec. C'était clair dans ma tête. Fait que ce que tu dis, je pense qu'elle représente tout ce que l'on pourrait vouloir comme image. Elle n'est pas polarisante, elle est très pragmatique, elle est très posée. Cela étant dit, tu l'as bien souligné, c'est Mark en ce moment, dans les trois. Fait qu'ils ont peut-être eu un conseil de famille après la mort du papa, puis ils ont dit, bon, qui qu'on prépare pour la suite des choses? Ben, ça se prépare sur une montée. Moi, je pense qu'un de ceux qu'on sous-estime potentiellement, c'est Jason Kenney. Qui a été un des ministres les plus influents sur Stephen Harper, qui a été premier ministre à l'Alberta, qui a été tassé par la frange dure conservatrice dans le temps de la pandémie, là, avec toutes les histoires qu'on pourrait dire d'une partie de la population. Là, mais je prends des qualificatifs que j'aime pas utiliser, mais les plus complotistes qui étaient contre tout, contre les vaccins. Dans les réseaux sociaux, tu fais un post puis ils parlent encore des vaccins de la COVID. Là. Ils n'ont pas décroché de ça. Là, je fais moi tranquille des problèmes de la COVID aujourd'hui. Là, on est rendu ailleurs. Là, oui, il y a eu des erreurs, puis c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été dites, puis vous avez eu raison sur une partie, mais arrêtez de me parler de la COVID aujourd'hui. Ouais.
C'était pas Jason Kenney que Jean Lapierre avait dit qu'il n'avait pas perdu encore sa Joseph-té.
Ouais. Vraiment, t'as googlé pour aller retrouver ça, toi.
Ben, je me semble que Jason Kenney, je me souvenais de lui, mais il me semble que Jean Lapierre avait dit quelque chose, puis ouais, c'est ça. Ouais.
C'est Jean Lapierre. Kenney, puis Jason Kenney, ce qui était sa plus grande force, c'était le ministre peut-être le plus influent avec Denis Lebel dans le gouvernement de Stephen Harper. c'est qu'elle avait réussi à ratisser large dans les communautés culturelles, dans le Grand Toronto. Puis lui, là, tu t'en vas à Montréal avec lui, dans les communautés culturelles, là, c'est une rockstar encore aujourd'hui.
Ah oui.
Les gens veulent le rencontrer. Il parle très bien le français. C'est un gars de droite qui a été premier ministre de l'Alberta. Fait que, tu sais, si tu veux rapprocher les franges, c'est un gars qui a toujours respecté le Québec dans son discours, qui a souvent dit qu'il fallait s'inspirer du Québec. Fait que, je pense que là, les consentants auraient peut-être quelqu'un qui pourrait être extrêmement intéressant. Puis il a été très dur envers Pierre Poilievre à plusieurs moments en disant « c'est pas la bonne façon si vous voulez y arriver ». Comme Doug Ford, là, il était très critique avec Pierre Poilievre. Puis ça, c'est des vrais progressistes conservateurs, là.
Puis je te pose une question comme ça, puis ça, c'est mon long shot. Là. Daniel Smith, qui s'est un peu ravisé, parce que là, on parlait du fameux référendum en Alberta. Là, elle a dit qu'elle n'était pas séparatiste, qu'elle était fédéraliste, mais qu'elle voulait permettre aux gens de l'Alberta de faire un référendum. Daniel Smith, ce serait pas une bonne candidate pour le Parti conservateur du Canada?
Je vais te répondre très simplement. Moi, pour moi, quelqu'un qui veut devenir chef d'un parti, puis je l'ai dit quand je choisissais les candidats, ne peut pas s'exprimer dans les deux langues officielles et disqualifié d'office.
Mais Mark Carney est chef de parti, puis il était à peine capable de s'exprimer en français.
Oui, puis là, regarde aujourd'hui comment il est capable. Il fait ses commentaires, il fait des entrevues. Puis tu sais, c'est pas un français parfait, mais il est capable de s'exprimer. Ouais. Il est capable de comprendre la question. Daniel Smith n'est même pas capable. Pourtant, elle est très respectueuse. C'est une de celles, unilingue, qui était la plus respectueuse quand elle a fait un discours, quand elle est venue. Elle a pris le temps au moins de lire quelques lignes. Elle a fait plus que le PDG d'Air Canada, en fait, dans son élection, dans son mot pour les pilotes, les gens qui étaient morts lors du crash qu'il y a eu. Fait que, moi, pour moi, ça l'a disqualifié. Il va dire, au-delà du Québec, tu as 100 circonscriptions au Canada avec des communautés francophones. C'est les deux langues officielles, ça fait partie de notre pays. Pour moi, si tu veux aspirer à devenir premier ministre, ça se prépare. Tu ne commences pas à apprendre le français quand tu te présentes dans une course. Tu démontres un intérêt, puis pas qu'on arrive à quelque chose comme Mary Simon, l'ancienne gouverneure générale, qui s'est ramassée un poste honorifique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, puis j'ai écrit là-dessus il n'y a pas longtemps, puis qui n'a jamais été capable de dire un mot de français. Pour moi, c'est une insulte à près de 30 % de la population du Canada.
Puis comment on fait pour tasser un chef comme Pierre Poilievre? Si jamais on est à l'interne, puis il y a énormément de mécontentement, Pierre Poilievre peut pas... il peut partir de lui-même, mais y a-t-il des stratégies qui peuvent être utilisées à l'interne, à l'intérieur d'un parti, pour dire à un chef, votre temps est terminé, faudrait laisser la place à quelqu'un d'autre?
Il y en a une qui est très simple, il y a juste les conservateurs qui peuvent le faire. Les autres ont adopté la loi Chung, qu'on appelle. Il s'appelle Michael Chung, un député conservateur de l'Ontario, qui voulait donner plus de pouvoir aux députés à l'intérieur, parce qu'on sait comment les chefs sont puissants dans une organisation, redorer le travail et le rôle du député. Et il faut à chaque début de mandat, après une élection, qu'un parti politique, pour appliquer cette loi-là, se la vote en caucus. Les conservateurs ont voté. Puis le pouvoir que ça donne, c'est que tu peux, par un vote secret, demander un vote pour la destitution de ton chef. Donc là, ça a été dur à faire passer, puis la plupart des partis ne se votent pas ce pouvoir-là parce qu'ils disent que ça revient aux membres à exercer ce pouvoir-là. C'est les membres qui choisissent le chef, donc c'est les membres qui ont le droit de vie ou de mort. Les conservateurs ont été plus loin, ont dit non, c'est vrai pour le chef, mais ils voient ça différemment. Le caucus, s'il perd confiance en son chef, pour X raisons, bien, il a le droit de demander. Puis Pierre Poilievre était à la tête de façon discrète par en arrière, il a envoyé ses soldats faire la job. Mais c'est lui qui a parti le mouvement pour faire tasser Renault Tour, qui a sauté à cause de cette loi-là. Donc, les membres, tantôt je te le parlais, ces membres-là ont fait élire Pierre Poilievre. Ils ont plus de 300 000 au pays, c'était monstrueux. Ces gens-là, ils croient. Puis Pierre Poilievre, il a juste à les nourrir avec deux, trois sorties très, très à droite qui nourrissent cette base-là pour leur faire plaisir. Puis à chaque fois qu'il va chercher une clip pendant la période de questions, il la lance, puis il va chercher 500 000, 1 million de dons de cette base-là dure, qui croit en lui, puis qui est allé chercher tous les votes de Maxime Bernier, là, qui était encore plus à droite. Ben, ils sont revenus en disant, si on a une chance de battre les libéraux, c'est avec notre chef conservateur, on va arrêter de se diviser, puis ils tiennent serrés comme ça. Fait que lui, il continue à penser qu'avec l'usure du temps, Mais moi, je dis souvent, tu veux-tu gagner par l'usure ou tu veux gagner parce que tu proposes mieux? Tu sais, lâchez-moi Justin Trudeau, là, il n'est plus là, là. Il se promène avec sa blonde partout à travers le monde comme une rockstar, puis tu arrêtes de parler de lui.
L'attitude de Mark Carney actuellement dans les négociations de la CEM avec Donald Trump, est-ce que c'est la bonne attitude à avoir? On ne sera jamais malheureusement capable de se séparer complètement des États-Unis au niveau de l'import-export. On dépend d'eux à peu près à 80 %. Mark Carney qui veut diversifier un peu l'import-export en se promenant un peu partout à travers le monde, même faire des deals avec les Chinois, Alain, ce que je ne pensais pas possible. On fait rentrer 49 000 véhicules chinois, ce qui représente à peu près 3 % de notre parc, ce qui représenterait 3 % de notre parc automobile. Est-ce que son attitude est bonne? Est-ce qu'on va réussir à signer cette entente-là? Puis il reste quelques semaines. Je pense qu'on va commencer à partir du 1er juillet.
Oui, bien, le 1er juillet, c'est là que chacun doit dire s'ils veulent, ils peuvent la maintenir telle qu'elle. Bon, c'est clair qu'elle ne sera pas maintenue telle qu'elle. Ils peuvent dire qu'ils se retirent ou peuvent dire qu'ils veulent commencer un processus de négociation, d'évaluation de l'accord. C'est là qu'on s'en va en toute honnêteté, là. Même si Donald Trump n'arrête pas de dire qu'il n'en veut pas de cet accord-là, il voudrait qu'on soit le 51e État, c'est parce qu'on représente quelque chose pour les Américains. On va dire, notre bois, quand il met des droits de douane, c'est les Américains qui payent le plus cher, là, parce que c'est eux autres qui construisent avec notre bois là, leur maison puis leur building. Fait, les Américains ont commencé à chialer parce que l'inflation a augmenté, le coût de la vie a augmenté, les revenus aussi ne suivent pas la cadence. Puis une des raisons moi, que j'explique des droits de douane, puis je vais arriver à répondre à ta question à la fin, c'est qu'au fédéral, aux États-Unis, il n'y a pas d'impôts comme on a nous autres, là, d'entrée d'argent de la même façon. Puis Donald Trump, ce qu'il veut, c'est qu'il veut baisser les taxes, puis il veut redonner plus d'argent aux gens. Mais quand tu mets un frais de douane dans tout ce qui rentre, c'est des milliards qui rentrent dans les coffres du gouvernement fédéral. Fait que Donald Trump, ça lui fait plein d'argent qui rentre, et en mettant, il ne faut pas oublier qu'il met 10 % sur tout, parce qu'il veut que ça rentre dans les coffres pour que lui, après, puisse baisser les impôts, puis donner des bonbons, si tu veux, électoraux à ses militants, puis montrer qu'il peut faire une différence. Mais là, ça fait l'effet contraire. Maintenant, au départ, Mark Carney, son argument, c'était de dire « Élisez-moi parce que je vais mettre fin au droit de douane. » Là, aujourd'hui, clairement, il annonce que ça ne sera pas ça. Puis on dirait que la population veut le suivre en disant, bien, il fait une lecture, c'est réaliste, la donne a changé, il est encore la meilleure personne. Puis on le voit dans les taux de satisfaction, là, c'est jamais vu. Là. On va dire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les libéraux, là, Mark Carney est à plus de 50 % de taux d'approbation.
Mais les déficits, Alain, les déficits se creusent à n'en plus finir. Ouais. On est en train de pas de transmettre ça à nos arrière-petits-enfants, mais ça va être à nos arrière-arrière-arrière-petits-enfants. Et il semblerait que les Canadiens sont très à l'aise avec ça. Moi, j'ai une problématique. Là. Puis pour ce qui est des négociations avec l'ACM, le Mexique semble mieux s'en sortir que le Canada, ce qu'on pensait pas possible. Là. Le Mexique semble bien s'entendre avec les États-Unis ces temps-ci.
Oui, mais ils n'ont rien signé encore. Ils discutent, mais ils n'ont rien signé. Puis c'est là, je pense, qu'on va être capable d'évaluer à la toute fin. Un, le 1er juillet, si Donald Trump met fin carrément, quel sera l'impact? Tantôt, tu parlais de la diversification. Bien, quand le dernier rapport est sorti, tout ce que l'on a perdu en exportation aux États-Unis, les entreprises canadiennes ont réussi à les chercher en Europe en ce moment. C'est du égal-égal, là. L'endroit où on est le moins touché, c'est au Québec. Parce que c'est là qu'on exporte le moins, même si la majorité de ce qu'on exporte va aux États-Unis. Fait que c'est comme si on dirait, là, puis c'est peut-être le sentiment patriotique, on l'a vu dans le sport particulièrement pendant les hymnes nationaux, il y a comme une partie, on dirait, de la population qui dit, « Gars, si les Américains veulent plus nous autres, ben tant pis, on est comme des Gaulois. » Moi, c'est un peu ce que je sens. Il y a comme une fierté qui s'est dégagée, là, on le voit avec la Coupe du monde, on l'a vu avec le hockey dernièrement, quand il y a des événements sportifs. Fait que c'est comme si les gens disent, ils baissent les bras en disant « Gars, on ne peut rien faire avec Donald Trump. » Puis l'autre élément qui revient souvent dans les discours, c'est que Donald Trump, il est éphémère. On va dire, on tombe Alexandre mi-mandat. Fait qu'est-ce que la stratégie de Mark Carney, puis je pense que c'est ce que l'on entend, puis moi, je ne suis pas un expert là, en relations internationales et en économie, c'est pour ça que je pèse mes mots, puis je regarde, que je donne mon opinion par rapport à ce que je vois. On sent que le gouvernement fédéral essaye d'étirer au maximum la situation sans froisser Donald Trump pour se rendre aux élections de mi-mandat en se disant s'il perd le contrôle des chambres, il ne pourra pas mettre à exécution ce qu'il veut faire. Et là, on peut espérer tranquillement, un 2 ans plus tranquille, avec un nouveau président américain, où là, on retraite. Parce que les Américains, là, quand tu leur parles, là, puis les Canadiens, on n'a rien contre les Américains. Moi, j'aime le rappeler, hein. Mais moi, j'ai fait le choix de ne pas aller aux États-Unis tant que Donald Trump est là. Moi, c'est un choix personnel que j'ai fait. J'ai refusé les invitations. Je vais voir des matchs de sport aux États-Unis. Je vais aller voir la Coupe du monde, moi, qui est un amateur. J'avais été en 94 à Boston. Je me prive de ce plaisir-là, par principe. J'ai dit ça va être ma façon. Mais moi, j'ai rien contre les Américains. J'ai hâte d'y retourner. Mmh.
Mais notre Canada,
je pense que là, il va partir.
Notre Canada est en récession technique. Il y en a qui disent « Ah non, il n'y a rien à craindre. » On parle quand même d'une récession technique. On n'est pas capable d'arriver dans notre budget avec tout l'argent qu'on envoie au Canada. Ils ne sont pas capables de se budgéter pour qu'on ait un déficit zéro. On se ramasse avec des déficits du jamais vu, encore pire que quand Justin Trudeau était là.
Ouais,
il y en a certains qui vont nous dire « Ah, ben c'est une stratégie politique. On va caler des plus gros déficits au départ pour essayer d'amoindrir ce déficit-là vers la dernière année de Mark Carney lorsque les élections arriveront à ce moment-là. » Moi, je ne sais pas quoi croire dans ce dossier-là, si ce n'est que je leur fais plus confiance. Je ne fais plus confiance à personne. Mon avenir, ça va être moi qui va décider. Je vais mettre mon argent de côté, je vais la placer où je veux. Puis quand je prendrai ma retraite à 85 ans, ben, je pourrais au moins dire que le gouvernement ne m'a pas tant renvoyé d'argent que ça. C'est moi qui envoie de l'argent au gouvernement, puis je fais vivre d'autres personnes. On a un panier de services qui est juste hallucinant au Québec, là, mais bref, ça, c'est un autre sujet. Il y a mon recherchiste qui voulait que je te pose cette question-là. Que préfères-tu, Alain Reyes, aujourd'hui? Est-ce que c'était ta carrière de politicien ou ta carrière de commentateur politique maintenant? Puis les gens qui étaient tes amis à l'époque, lorsque tu étais politicien, est-ce qu'ils sont restés tes amis pareils depuis que tu es commentateur politique?
Oui, j'ai gardé pas mal mes amis, je te dirais. Ça, c'est la chose dont je suis le plus fier. Puis je l'ai dit parce que quand tu fais de la politique, tantôt on en parlait, tu n'es pas souvent à la maison. Ceux qui ont beaucoup écopé, c'est nos proches, notre famille, mais encore plus nos amis. Parce que le premier groupe que tu vas voir, c'est ta famille que tu veux protéger. Tes amis, eux autres, c'est loin, mais moi, ils ont toujours été là à chaque campagne électorale. Quand j'avais besoin, quand j'avais des dents, je les appelais, on s'organisait une game de cartes, on allait faire une petite soirée au casino à Montréal pour changer les idées. T'sais, ils prenaient soin de moi, là. Puis, ils étaient toujours là. Là, je te disais, comme chroniqueur, ils sont toujours là. Moi, je touche du bois, en toute honnêteté.
T'as pas l'impression que certaines personnes, des fois, tentent d'influencer le commentaire que tu pourrais avoir le soir quand t'es à heure de grande écoute?
Ben, j'espère qu'ils font. Ce que tu dis
parce
là,
que moi, c'est quelque chose qui me tanne là, de mon travail. Ah, ouais. Là, encore hier, j'avais un conseiller qui m'a appelé. C'est mon téléphone cellulaire pour me dire qu'il était mécontent de quelque chose qu'il avait entendu sur nos ondes. Puis là, il voulait me convaincre que le moyen qu'il avait employé était un très bon moyen. Puis j'y ai dit, écoute, moi, je vais me fier sur ce que je vois. Je vais me fier sur ce que j'ai lu, sur ce que j'ai entendu, sur les autres témoignages. Puis je vais me faire une idée. Mais c'est pas parce que tu me dis quoi penser que je vais répéter ce que tu me dis, tu sais. Et là, il a dit, ah, ben c'est pas mon objectif. Ben parfait, je te souhaite de passer une belle fin de journée, puis on se reparlera dans les prochaines semaines. Mais oui, il y a des gens qui tentent d'influencer le commentaire, et ça m'agace à chaque fois, Alain.
Oui, ben, mais je pense que dans la façon de le faire. Tu sais, le gars qui t'appelle, le politicien, parce que tu as dit quelque chose qui n'est pas content, puis qui essaye de te convaincre, même s'il dit que c'est pas ça l'objectif, c'est maladroit. Mais tu sais, moi, quand je choupe avec des amis, c'est clair qu'ils me partagent leur opinion autour de table. Tu sais, on se met personnellement, là, on est avec des amis, on jase, on sort un sujet. Tout le monde essaye de partager son opinion puis de dire ce qu'il pense. Puis moi, quand j'écoute les gens, ça me fait réfléchir. Ça ne veut pas dire que je vais tout prendre qu'est-ce qu'ils vont me dire, par exemple, mais ça me fait réfléchir. Moi, je dis souvent, on est ce qu'on est de par l'environnement dans lequel on habite, puis les gens qu'on côtoie, les gens qui nous inspirent au quotidien. Puis moi, je n'ai pas la vérité dans tout, puis je ne maîtrise pas tous les dossiers. Puis c'est pas pour rien qu'il y a des lobbyistes. Tu sais, les gens ont l'impression que les lobbyistes, c'est de la peste. Mais moi, pas du tout. Moi, quand j'étais à Ottawa, on nous disait « rencontrez-les, les lobbyistes, les greffiers, les agents du Parlement qui nous protégeaient. » Puis il dit « on vous fait confiance, vous, comme politiciens, pour prendre la bonne décision, mais vous avez besoin d'entendre tous les côtés de la médaille pour pouvoir vous faire votre propre opinion. » Fait que moi, mes amis là, qui me critiquaient quand j'étais avec les conservateurs, qui étaient à l'extrême gauche, je disais « au lieu de me critiquer, pourquoi vous ne profitez pas de ma stature de politicien pour tenter de m'influencer, de me partager votre opinion pour que je me fasse ma propre tête, moi. Puis, dans certains cas, ils ont adouci mon ton. Dans certains cas, ils avaient raison. J'étais parti sur une dérape, puis je me faisais brainwasher par ma propre organisation. Ouais. Puis là, ils m'ont dit, oh, t'as un peu, il y a peut-être un autre verre. Fait que là, tu deviens plus sensible, plus humain. Puis je pense que ça, ça teinte un peu, oui, notre discours, mais ça le rend plus central, plus vendeur, plus possiblement capable de rejoindre le plus grand nombre de personnes pour les emmener avec toi ultimement. Là.
Non, sur certains points, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Quand c'est factuel, quand la personne t'appelle pour dire, écoute, ce que tu as mentionné de factuel, ce que tu croyais de factuel, c'est pas ça. Voici ce qui s'est réellement passé. Puis voici pour les raisons pour lesquelles j'ai pris cette décision, les raisons pour lesquelles j'ai dit ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est quand on tente d'influencer l'opinion parce que lui, sa perception, ce n'est pas ça. Je trouve ça un peu particulier. Ben, puis je me souviens, pendant le temps de la pandémie, Alain, je pense que c'est un journaliste ou un commentateur de Radio-Canada qui avait été appelé par François Legault parce que François Legault... Appelé ou un courriel qui avait été écrit parce que François Legault était mécontent de ce que le commentateur avait dit.
Ouais.
Hey, là, c'est aller loin. Là. Puis en même temps, quand t'es journaliste ou commentateur puis c'est François Legault qui t'écrit parce qu'il n'est pas content, c'est plus, ça a plus d'impact que quand c'est Mme Thérèse qui t'appelle.
Mais ça, il y a une grosse différence dans ce que tu dis. Il est en réaction. Il peut pas dire qu'il veut pas ça pour essayer de t'influencer.
Ouais.
Et moi, quand je dis que les gens m'influencent, c'est qu'on t'a un souper, on jase d'un sujet. Ça veut pas dire que je vais le commenter, ce sujet-là. Mais oui, ils tentent de m'influencer. Puis moi, j'ai mes amis, bien, profitez-en. Vous avez la chance de me connaître. Une organisation vient de voir, ça veut pas dire, par exemple, que ça va être dans l'actualité demain matin, mais ça me permet de me former ma propre opinion, comme quelqu'un qui va à l'école. Mmh. Tu sais, des fois, tu es à l'école, tu disais, qu'est-ce que ça va bien me servir? Ce que le prof m'a enseigné en mathématiques au secondaire 4. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils forment ton esprit critique. Ils te permettent à apprendre à travailler en résolution de problèmes. Ils te montrent ton français pour être capable de mieux t'exprimer. Du coup, tu t'en rends pas compte que ça forme ta personnalité, ton opinion quand tu es dans un cours de géographie puis que tu apprends comment les dynamiques géopolitiques se façonnent à travers le monde. Ça te permet de mieux les commenter ultimement puis mieux de les comprendre, mieux apprécier ces différences-là, puis éviter de tomber dans la polarisation puis dans la critique facile, parce que le problème qu'on a dans notre société, c'est qu'on cherche des solutions simples à des problèmes complexes.
Mm.
Puis c'est ça qu'on recherche tout le temps, parce qu'on veut la clip en 30 secondes. C'est fou, là. Le Parlement canadien, tu poses une question, tu as 30 secondes, puis la personne a 30 secondes pour te répondre sur un enjeu ultra complexe. Après ça, on se demande pourquoi ça ne tient pas la route et que le monde sont cyniques.
Alain Reyes est avec nous ce soir. C'est l'ex-maire de Victoriaville. C'est un ancien député qui a été au fédéral. Il est aujourd'hui commentateur politique. On passe le podcast au complet avec lui. Je dois faire une courte pause et on revient tout de suite. Est-ce que vous restez là, monsieur Reyes?
Je pense que je vais rester quelques minutes pour continuer à jaser avec vous autres.
On revient.
Marceau, le soir. Le soir. Avant même le podcast, il y avait Marceau le soir. Du lundi au jeudi, 18h, Marceau parle avec du monde. Du monde quand même assez intéressant.
Oui, oui, bien sûr.
Des politiciens, des acteurs de l'actualité, des experts, des avocats, des musiciens, des professionnels. Et même des inconnus qui ont quelque chose à dire. Mais avant tout, des humains, des émotions, des histoires. Marceau le soir, à Boulevard.
Ce segment d'émission présenté par Lévis Subaru qui est maintenant situé au 5085 rue Christophe-Colomb à Lévis. Lévis Subaru, c'est la place pour votre nouvelle voiture.
Ne manquez pas le Festivière de Lévis du 25 au 28 juin au Quai Paquette. Au rendez-vous, une ambiance de fou avec
Matt Lang, Valère, un hommage aux cowboys fringants
et plus de diversité dans votre verre avec microbrasserie, vignoble, distillerie et plus encore. Procurez-vous vos billets au infofestivière.com. Le Festivière de Lévis, une présentation Promutuelle en collaboration avec Ville de Lévis.
Boulevard 102.1 et le Festivière pour un été qui goûte les vacances.
De vendredi à dimanche, obtenez 20 fois les points chez Pharmaprix. Ouvrez l'appli PC Optimum, magasinez, scannez et obtenez 30% de remise en points. Conditions dans l'appli.
En juin, roulez en toute sécurité avec pièces d'auto économiques. Profitez de 15% de rabais sur les disques de frein BrakeMax, les amortisseurs complets McPherson et Unity et sur l'ensemble des produits d'esthétique Silver Wax. Meilleur rapport qualité-prix-service de l'industrie. Pièceséconomique.com.
C'est de retour et c'est gigantesque. C'est les soldes monstres aux instruments de musique Long & McQuaid. Tout le mois de juin, Long & McQuaid rugit avec des spéciaux en magasin et en ligne ainsi qu'un financement sans intérêt rabais pendant 6 mois. À ne pas manquer ce mois-ci. Location à demi-prix, journée d'appréciation de la clientèle et une tonne de surprises monstrueuses. Les soldes monstres tout le mois de juin, seulement chez Long & McQuaid. Visitez long-mcquaid.com pour en savoir plus. Long & McQuaid, là où la musique commence.
Alors que vous partiez en vacances en Estrie, vous faites une crevaison.
Oh!
Vos vacances commencent mal.
Oui.
Vous n'êtes pas en Estrie.
Non.
Mais vous êtes en...
Oui, oui, c'est beau, on a compris.
Mais comme vous êtes membre CAA, vous bénéficiez de l'assistance routière même dans la pire situation.
Génial.
Mais maintenant, vous êtes rendu en Estrie.
Oui.
Vous aimeriez vous détendre.
Oh oui.
Mais votre budget, lui, est tendu.
Ouais, j'avoue.
En tant que membre CAA, vous profitez des meilleurs avantages, comme des rabais pour le spa,
oh, ouais.
L'essence,
eh ben.
Ou l'hôtel.
Ben, parfait, ça.
Pour le meilleur et pour le pire, CAA Québec.
Pendant vos escapades, vous avez passé devant les files d'attente aux stations-service sans vous arrêter, grâce à une autonomie combinée allant jusqu'à 962 km. Mais aujourd'hui, vous reprenez la routine en comptant sur une autonomie électrique de 72 km. La Prius hybride branchable s'adapte à votre rythme. C'est l'heure de conduire la vôtre. C'est l'heure Toyota. Pour un temps limité, vous pourriez obtenir jusqu'à 8 000 en rabais gouvernementaux et incitatifs clients. Visitez achetezmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec pour toutes les conditions.
Est-ce qu'il y a des Québécois de souche ici ce soir?
Salut, c'est Nathan Meilleur. Cette année, pour la Saint-Jean-Baptiste, on vous a préparé un gros party qui revisite 30 ans de musique et de groupes marquants du Québec de façon chronologique.
À cause, tu fais ça, M'damère!
Qui était sur les plaines lors de la Saint-Jean en 96? Qui a remporté l'artiste de l'année à la disque en 2008?
À Paradis City! À Paradis City!
Qui était le nouveau groupe dont tout le monde parlait? Des colocs à Sarah Dufour, Leclerc Communication revisite 30 ans de notre culture et de notre musique au Québec.
Diffusé le 23 juin de 19h à 23h et le 24 juin de 16 à 22h. Le spécial Saint-Jean, présenté par Unicanva, qui crée votre espace de vie extérieure sur mesure. Toit permanent ou rétractable, mur ou verrière. Vivez l'été confortablement avec Unicanva.
Équipez vos aventures de plein air chez Sail. Économisez jusqu'à 25 % sur l'équipement de camping et de plein air, ainsi que sur les vêtements, les chaussures et bien plus encore. Sail, votre destination plein air 100 % québécoise.
Ici Éric Duhem. J'ai travaillé en politique puis ici à radio parce que je crois que les gens ordinaires méritent quelqu'un prêt à dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Même quand ça dérange, j'ai jamais hésité à prendre la parole pour les gens que personne n'écoute, pour les familles qui comptent leurs sous à l'épicerie, pour les entrepreneurs qui portent le poids de l'État sur leurs épaules, pour les patients qui attendent trop longtemps leur traitement contre le cancer, pour les jeunes qui ont abandonné leur rêve de s'acheter une maison. Ces gens-là méritent un politicien qui va pas les abandonner. Ils méritent un changement. C'est pour vous autres que je me bats.
Cet été, plongez dans les magazines Inspiration de La Presse Plus. À lire samedi. Destination voyage, idées déco et recettes gourmandes, tout pour une saison estivale colorée. La Presse Plus, toute l'info 100 % gratuite. Disponible sur tablette et Mac.
Voici le portrait. Tu veux t'acheter une voiture, t'en veux pas de neuve. Et tu veux faire ça simple. Ça l'est avec Kia Beauport. On a aussi de l'occasion. On fait partie du portrait. Rejoins la famille. Magazine au kiabeauport.com.
Vous cherchez à travailler et faire une réelle différence? La Maison Les Merveilles Suzanne Vachon, maison de soins palliatifs et de répit pour enfants gravement malades ou polyhandicapés, est actuellement à la recherche de personnel en soins infirmiers, de préposés aux bénéficiaires et d'éducateurs accompagnateurs. Joignez-vous à notre équipe humaine, bienveillante et passionnée. Temps plein ou temps partiel de jour, de soir ou de nuit, salaire concurrentiel et milieu de travail chaleureux vous y attendent. Postulez dès maintenant à carrière@commercialmlsv.ca. Venez nous aider à changer des vies. Y compris la vôtre.
C'est pas pour rien qu'Abba, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez Abba, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. AbbaExtermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. Abba, une solution définitive.
Wow! Ils baissent les prix au Club Entrepôt.
Ouais, encore plus bas qu'avant.
Regarde ça, 13,6 kg de frites coupe droite Sunspun pour seulement 33,99 $.
Oh là là, c'est plus bas que...
Que le signal Wi-Fi dans mon sous-sol. Attends, tu vas où, là?
Économiser pour notre entreprise.
Économiser pour votre entreprise, c'est notre affaire. C'est pourquoi on baisse les prix sur des centaines d'articles.
Club Entrepôt, le plein de valeur.
Adhésion sans frais. Détails à clubentrepôt.ca.
Envie de plus d'espace, plus de dispositifs de sécurité et plus de connectivité? Le tout nouveau Mazda CX-5 vous attend en location à partir de seulement 109 $ par semaine. Oui, 109 $ par semaine pour le tout nouveau Mazda CX-5 avec sa garantie à kilométrage illimité. Faites vite et obtenez-en plus avec Mazda. Location 48 mois, 20 000 km par année. À compte de 1 700 $, valeur au détail de 37 765 $. Les conditions s'appliquent, l'offre prend fin le 30 juin. Visitez votre concessionnaire Mazda.
Boulevard 102.1, 100% parlé en semaine, avec les meilleures émissions d'actualité à Québec. Leclerc Communication, le radiodiffuseur numéro 1 à Québec.